officiers, sous-officiers et soldats du corps expéditionnaire.
Le 24 décembre 1945, le général Leclerc s'adresse aux soldats français qui passent la nuit de Noël avec lui en Indochine.
Une fois de plus, vous passerez les fêtes de la nouvelle année loin des vôtres, luttant pour le rétablissement de la grandeur française.
Leclerc est à Saïgon pour tenter de restaurer la souveraineté française sur le territoire indochinois.
Je forme des vœux pour que l'année 1946 vous soit favorable, à vous et à vos familles, et pour qu'elle marque une étape de plus dans le relèvement français.
Mais toute la région a été bouleversée par la guerre, et Leclerc sait combien sa mission n'est pas simple.
J'adresse un salut particulier aux troupes de l'Indochine du Nord et de la Chine qui attendent impatiemment depuis plusieurs mois le moment d'entrer en action.
Après Koufra, Paris, Strasbourg et Berchtesgaden, l'épopée Leclerc se poursuit aux confins de l'Empire colonial en Extrême-Orient.
Écoutez le général Leclerc.
La France de Gaulle, celle qui a refusé de cesser le feu, retrouve la France de l'intérieur, celle qui a refusé de courber le front.
Lorsque Leclerc s'envole pour l'Indochine en août 1945, la guerre n'est pas finie. Les Alliés et les Japonais s'affrontent toujours dans le Pacifique. Et c'est donc en tant que militaire que Leclerc arrive en Asie. Mais très vite, il va à nouveau se heurter à des conflits politiques ainsi qu'aux prémices de la décolonisation.
Abandonnez les Français, venez combattre avec nous.
Dans l'avion qui le conduit vers Saïgon, Leclerc potasse pour combler ses lacunes quant aux subtilités de l'Indochine sur lesquelles nous allons revenir. Mais ce que les livres d'histoire ne peuvent lui apprendre, c'est l'arrivée sur place de l'amiral d'Argentlieu.
Vive la Cochinchine et au-delà, avec l'Union indochinoise tout entière, vive la France.
Un nouveau rival gaulliste avec lequel Leclerc va entrer dans un conflit violent. Et c'est la trame de ce nouvel épisode.
Philippe de Haute-Cloque n'est plus. Le général Leclerc est entré dans la légende.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez La Cavale du général Leclerc. Septième épisode, dans les brumes de Saïgon.
Quel homme était-il ?
Leclerc, c'était le héros, c'était le type pur.
C'était l'efficacité, c'était la loyauté et c'était la rapidité.
Quel homme était-il ?
C'était un homme intérieur, c'était un homme spirituel aussi, je crois.
Pour Leclerc, il suffit !
Adoré de ses hommes à l'égal d'un souverain ou d'un prophète, il avait inspiré l'esprit qui l'animait à toute sa division.
Juif, chrétien, musulman, héritier de la vieille France aristocratique et paysans arabes, ouvriers de la banlieue parisienne, évadés d'Alsace.
Et à Berlin.
Cette épopée de Leclerc, cette épopée de la France libre, chantera toujours sur des syllabes claires et sur des accents de triomphe qui sont ceux du nom de Leclerc de Haute-Cloque.
Le récit débute le 11 septembre 1945 sur le port de Marseille. Ce jour-là, à proximité du môle C, un reporter de la Radio Nationale s'approche d'un navire marchand.
En effet, nous sommes à proximité du paquebot mixte de la ville de Strasbourg, le beau navire de 13 500 tonnes qui vient d'être remis à la France par le pool interallié. Et dans quelques instants, la ville de Strasbourg va lever l'ancre et quitter Marseille en direction de Suez, puis de l'Indochine.
Aubert. Lebrun.
Qui trouve-t-on à bord de ce paquebot?
Ce sont en effet les gars de la 2e DB qui embarquent et qui, les premiers, comme toujours partout, vont toucher terre à Saïgon, car c'est à eux que revient l'honneur de rétablir l'ordre dans les régions d'Indochine, où il peut être parfois troublé par des éléments au service des Japonais.
Le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient est composé, entre autres, par les soldats de la 2e DB.
Les gars de la 2e division blindée nous adressent un dernier au revoir.
Le navire quitte le port de Marseille pour rejoindre l'Asie, où les attend déjà Leclerc, le général en chef de ce corps expéditionnaire. Début septembre 1945, les Japonais ont rendu les armes.
Qu'est-ce qu'ils font là ?
Et la péninsule indochinoise est alors occupée par les Chinois et les Britanniques. Quant au Viet Minh communiste, dirigé par Ho Chi Minh, il aspire à l'indépendance du territoire vietnamien. On va revenir sur ce dossier complexe. Mais disons que pour l'instant, la France est évincée de son ancienne colonie. Leclerc, lui, est arrivé par avion à Kandy, au Sri Lanka, où il attend ses troupes pour débarquer en Indochine et tenter de restaurer la souveraineté de la France. Dans quel état d'esprit est-il ?
Leclerc part vers une colonie qu'il ne connaît pas, où il n'a jamais été, où il n'a jamais combattu, et il n'a eu aucun homme sous ses ordres qui la connaisse bien.
L'historien Géraud Létang.
Donc c'est une grande découverte. Sans doute pense-t-il plein de choses très contradictoires. Vu que c'est une colonie, va-t-il tenter un ralliement, vieille habitude gaulliste de la France libre ? S'agit-il de la continuation de la libération ? C'est par exemple, quand on voit les affiches de recrutement pour ce corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient, vous avez la cathédrale de Strasbourg, le temple d'Angkor, et le slogan de l'affiche est « Après Paris, Strasbourg, Saïgon ». Est-ce que c'est de la pure propagande ou lui-même le croit-il ? C'est pas exclu qu'il le croit. Par ailleurs, c'est un homme qui s'envole avec une idée assez flou de ce qu'est le communisme, en fait. Puisque pour lui, à la fois, il sent bien que la guerre froide est en train de commencer, de succéder à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi, Ho Chi Minh, peut-être, pense Leclerc, est un communiste comme Roll Tanguy, où on va pouvoir s'entendre pour libérer l'Indochine du Japon. En réalité, Leclerc laisse peu d'écrits là-dessus, mais vous avez toutes ces contradictions dans sa tête. En tous les cas, Leclerc vient aussi avec un traumatisme. C'est le fait d'avoir été accusé toute la guerre par Vichy de brader l'empire colonial aux Britanniques.
Si la France veut continuer, au moment où s'élaborera le statut de l'Europe future, à figurer au rang des grandes puissances, elle doit rester, ou plus exactement redevenir, une puissance impériale.
Propagande du régime de Vichy, 1943.
Il faut reconquérir l'empire. En particulier l'Afrique, que des traites ont livré à l'étranger.
Et donc, sans doute, Leclerc arrive-t-il aussi avec la détermination, mais lui comme les autres Français libres qui l'accompagnent, de vouloir rendre l'Empire intact, d'effacer ce stigmate que la propagande de Vichy leur a imposé.
Par ailleurs, lorsque Leclerc arrive en Asie, le contexte géopolitique a brutalement changé.
Ce qui change tout, c'est évidemment Hiroshima et Nagasaki, et avec, en août 1945, le Japon capitule.
The Japanese have accepted our terms fully. That is the word we have just received from the White House in Washington, and I didn't expect to hear a celebration here in our newsroom in New York, but you can hear one going on behind me. This, ladies and gentlemen, is the end of the Second World War.
L'USS Missouri est installée en rade de Tokyo et par conséquent, on fait venir Leclerc qui va recevoir au nom de la France la capitulation des officiels japonais.
C'est le 2 septembre au matin. À bord du cuirassé Missouri, ancré dans la baie de Tokyo, le général MacArthur, accueilli par l'amiral Nimitz et accompagné des représentants de toutes les armées alliées, vient à peine de monter quand accoste une vedette. Cette vedette, c'est la défaite du Japon.
Dans cette vedette qui accoste, se trouve la délégation japonaise qui vient signer l'acte de reddition. Nous sommes donc le 2 septembre 1945. Et sur le Missouri, dans la baie de Tokyo, Leclerc jubile.
Leclerc va rendre l'appareil au général Delattre.
L'historien Guillaume Piketty.
Delattre a signé à Berlin le second acte de capitulation allemand. Et effectivement, Leclerc signe le principal acte de capitulation japonaise sur le Missouri, oui.
Parmi les signataires côté allié, on trouve le général Nimitz pour les États-Unis, l'amiral Fraser pour le Royaume-Uni, ou encore le colonel Cosgrave pour le Canada.
Et le général Leclerc, au nom de la France, au nom de la France qui a sa place dans la victoire comme elle l'a eue dans le combat.
Pour Leclerc, c'est à ce moment-là sans doute un moment de nouveau d'incertitude, parce que alors qu'il se projetait dans la continuation de la guerre qu'il avait entamée en 1940, cette fois-ci, c'est une autre guerre qui commence pour lui, beaucoup plus marquée par la décolonisation. Décolonisation qui n'est pas dans son imaginaire, qui n'est pas dans son agenda, qui est même impossible dans sa mentalité. Donc, par conséquent, se joue aussi sur le Missouri cette transition entre la Seconde Guerre mondiale et des guerres de décolonisation à la lueur de la guerre froide.
C'est pas une guerre traditionnelle ici. Ces petits singes qu'on croyait sous notre joug, désorganisés et soumis aux colons depuis des années, ils se révoltent. On fait face à des gens extrêmement déterminés qui sont prêts à crever pour la bouillie révolutionnaire qu'on leur a foutue dans le crâne.
Leclerc se retrouve donc confronté à une nouvelle ère géopolitique. Mais d'abord, revenons en arrière. C'était quoi l'Indochine avant la guerre ?
Alors l'Indochine, en fait, c'est une création coloniale, puisqu'en fait, ça n'a pas d'existence sur le terrain, en fait.
L'historien Thomas Vesset.
Pour la France, l'Indochine, c'est la réunion de 5 États différents, le Laos, le Cambodge, et non pas le Vietnam, comme le veulent les nationalistes vietnamiens, mais en fait, du nord au sud, le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine. Chaque territoire ayant en plus des spécificités juridiques, notamment il n'y a que la Cochinchine qui est une colonie française, c'est-à-dire en fait le territoire français, les autres territoires ayant des statuts différents, notamment des statuts de protectorat.
Donc, l'Indochine, c'était une sorte de fédération coloniale française avec différents statuts. Ensuite, que s'est-il passé dans cette péninsule durant la guerre ? Réponse de l'historien Eric Jennings.
Entre 1940 et 1943, l'Indochine va devenir la seule colonie européenne encore debout en Asie du Sud-Est. Puisque l'Indochine appartenant à Vichy, Vichy étant allié du Troisième Reich, ou tout au moins dans l'orbite du Troisième Reich, pour le Japon allié à Hitler, les Japonais ont décidé qu'ils pouvaient laisser l'Indochine de Vichy sur place.
Envers et contre tous, la voix de la France restera entendue de nos compatriotes d'au-delà des mers.
Propagande du régime de Vichy, 1942.
L'Indochine, terre fidèle qui est la plus éloignée de nous, la plus isolée et qui nous est demeurée loyale dès le premier jour de l'épreuve, l'Indochine écoute les paroles d'encouragement que la France et le maréchal ne cesseront jamais de lui adresser. La voix de la France n'est pas morte.
Et donc il y a eu cette période très bizarre d'une sorte de double occupation de l'Indochine par, primo, les forces de Vichy et, secondo, les forces japonaises.
Donc, le régime de Vichy a tenté de sauver son autorité sur le territoire indochinois. Mais dans les faits, c'était impossible.
Alors l'Indochine est très vite coupée de la métropole, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Indochine est totalement isolée, en fait, à partir de l'été 1940.
Je ne vous reçois pas, je ne vous reçois pas. Me recevez-vous ? Répondez.
Et l'Indochine, de par sa situation géographique, est aux premières loges face au Japon. Et le Japon va très vite occuper l'Indochine. L'Indochine, d'ailleurs, la seule colonie européenne de la région dans laquelle, en fait, les troupes japonaises vont entrer avant même le déclenchement de la guerre du Pacifique.
Entre 1940 et 1945, les troupes japonaises ont occupé l'Indochine en collaboration avec le régime de Vichy. Mais dans les derniers mois de la guerre, le Japon prend la main.
Le 9 mars 1945, il y a eu un coup de force japonais. En fait, le Japon s'est emparé directement de l'Indochine, a balayé en quelques heures, hein, 80 ans quasiment de présence française.
De durs combats sont engagés en Indochine depuis 6 jours.
Charles de Gaulle, 1945.
Entre les forces françaises et les forces japonaises, à Hanoï, Hue, Lang Son, Son Tai. Nos troupes ont opposé une vigoureuse résistance et poursuivent maintenant la lutte aux environs de ces villes.
Et dans la foulée de ce coup de force japonais, en fait, l'empereur d'Annam, le roi du Laos et le roi du Cambodge, en fait, ont abrogé les protectorats et donc les territoires sont devenus de fait indépendants, alors sous la protection du Japon, mais devenus de fait indépendants. Et avec la reddition du Japon, en fait, il y a une espèce de vide qui se crée. Et le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh, alors, qui est le leader du Viet Minh, hein, eh bien, proclame l'indépendance de la République démocratique du Vietnam.
Le jour même où Leclerc signe au nom de la France la reddition du Japon, Ho Chi Minh, lui, déclare l'indépendance du Vietnam.
La marche que vous entendez en ce moment est l'hymne national du plus jeune État du monde. C'est l'hymne national de la République du Vietnam qui vient de se constituer au sein de l'Union française.
Il y a un élément qui complique la situation, c'est que la conférence de Potsdam, dans ces grandes conférences internationales, eh bien, la conférence de Potsdam a scindé l'Indochine en deux, entre le 16e parallèle. Au nord, c'est la Chine qui doit recevoir la reddition japonaise, au sud, c'est la Grande-Bretagne. Et donc voilà, on a cette situation à la fois très complexe sur le terrain et en même temps très complexe au niveau international.
Récapitulons. À la conférence de Potsdam, durant l'été 1945,
le Major Attlee, le président Truman et le maréchal Staline ont jeté ici les bases du monde de demain.
Les Alliés ont écarté la France de toute présence en Indochine. Et par ailleurs, sur une partie du territoire, le communiste Ho Chi Minh a décrété l'indépendance.
Monsieur Ho Chi Minh, président de la République vietnamienne, vous parle.
Nous voulons notre indépendance, mais aussi la collaboration franco-vietnamienne. Maintenant, le mot Vietnam, c'est l'ancien nom de notre pays. Mais Viet Minh, c'est un nom abrégé de Vietnam Độc Lập Đồng Minh, c'est-à-dire la Ligue pour l'indépendance du Vietnam.
Alors, le Viet Minh, c'est la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, qui, effectivement, est contrôlée de fait par le Parti communiste vietnamien, mais qui, voilà, est aussi un parti nationaliste. Voilà, il y avait vraiment les deux composantes dans le Viet Minh, même si, effectivement, ce sont les communistes indochinois qui sont plutôt à la manœuvre.
Et en réalité, c'est plus qu'une indépendance proclamée.
L'Indochine est non seulement indépendante, mais fonctionnelle.
Eric Jennings.
C'est mon collègue Christopher Gaucha qui évoque l'idée d'un État archipel Viet Minh dès 1944-1945, qui est capable de lever l'impôt, d'enseigner, de gouverner en somme, sur de vastes étendues de l'Indochine.
Et toi, t'en penses quoi, toi? Tu la veux, l'indépendance? La révolution? Tu sais qui c'est, Ho Chi Minh?
Face à cette situation politique nouvelle et complexe, quelle est la mission du général Leclerc?
Alors, la mission du général Leclerc, il est envoyé en fait comme commandant supérieur des troupes qui sont chargées en fait de permettre la restauration de la souveraineté française sur l'Indochine. L'idée étant en fait que l'Indochine est la dernière étape de la libération du territoire. Et donc voilà, on envoie une force pour restaurer la souveraineté française, pour mettre le retour de la France en Indochine, compte tenu de la situation pendant le conflit.
Ça veut dire, pour être très clair, hein, vous parlez de libération du territoire, on vient finalement récupérer son territoire d'avant-guerre.
Voilà. C'est un peu ça l'idée, c'est qu'effectivement, tout en promettant d'administrer le territoire de manière différente, en fait, la France, effectivement, entend se réinstaller sur place et entend reprendre ce qu'elle considère comme étant un de ses territoires.
Lettre du général Leclerc à Maurice Schumann, le 9 novembre 1945.
Il s'agit purement et simplement d'une reconquête de ce pays. Rassurez-vous, jamais je n'emploierai ce terme ailleurs que dans cette lettre et je vous demande vous-même de ne jamais l'employer. Néanmoins, le fait est là.
La dernière absurdité serait de considérer aujourd'hui l'Indochine comme un pays mûr pour l'indépendance, possédant une élite avec laquelle on peut traiter. Si vous vous engagez dans cette voie, alors tous les intellectuels aigris d'Indochine et les communisants s'y précipiteront, feront agir nos propres politiciens en mal de progrès ou de sentimentalité.
Voilà, on a vraiment clairement la réalité de ce qui se passe en Indochine à ce moment-là.
Alors, essayons de résumer l'état d'esprit de Leclerc quand il débarque en Indochine au début de l'automne 1945.
Il arrive avec des idées qui peuvent se résumer comme suit.
Guillaume Piketty.
Il faut rétablir le mieux possible et le plus vite possible la situation de la France. Et donc l'idée, c'est de s'imposer sur le terrain. Mais en même temps, c'est un pragmatique qui comprend très vite que ce terrain est compliqué et qu'il va falloir faire preuve de fermeté et en même temps de diplomatie.
Honneur et bonheur au noble peuple ennemi.
Charles de Gaulle, 1945.
Confiance dans cette grande association française que vont constituer 110 millions d'hommes en tant de contrées de la terre, rassemblés, vaillants et laborieux, sous notre drapeau, voilà le vœu que la France tout entière forme à l'occasion de la fête du Tête ennemi.
Fin septembre 1945, le général Leclerc trépigne dans sa villa de Kandy, au Sri Lanka. Non seulement le corps expéditionnaire français n'arrive pas, car son périple depuis Marseille prend du temps, et par ailleurs, s'est installé au Sri Lanka lui aussi, l'amiral d'Argenlieu, haut commissaire de France pour l'Indochine. De Gaulle a donc placé Leclerc sous l'autorité de d'Argenlieu, car il pense qu'il manque d'expérience politique. De leur côté, les Britanniques renâclent à restaurer l'autorité française en Indochine. Excédé, d'Argenlieu décide d'envoyer malgré tout Leclerc à Saïgon, où il atterrit le 5 octobre. Deux jours plus tard, celui-ci s'adresse aux colons français.
Allocution à la population française de Saïgon, le 7 octobre 1945. Pendant 5 ans, on vous a prêché la résignation. Aujourd'hui, ayez une mentalité de victorieux, mais prenez patience. Les Indochinois, égarés momentanément par une propagande funeste, ne sont pas nos ennemis. Ils auront encore leur rôle à jouer dans la communauté française. Et je vous demande la plus entière et la plus complète discipline à leur égard. Car ce ne sont pas des ennemis.
D'entrée de jeu, Leclerc joue la carte de l'apaisement entre les populations vietnamiennes et les colons européens. Alors, comment se passe ce mois d'octobre 1945?
Alors, le mois d'octobre se passe de manière étonnamment simple. C'est-à-dire qu'en fait, le 5 octobre, Leclerc fait son entrée à Saïgon. Et très vite, quasiment dès la mi-octobre, en fait, le regard de Leclerc va se porter sur le nord, donc vers le Tonkin. Et très rapidement, il va envisager en fait, des opérations militaires au Tonkin, à tel point que l'amiral d'Argenlieu va écrire à la fin du mois d'octobre 1945 au général de Gaulle pour expliquer que le général Leclerc est tout acquis au rêve d'une reconquête et que c'est un peu dangereux compte tenu de la situation politique au nord du 16e parallèle.
Archives RTF, automne 1945.
La France reconquiert peu à peu sa suzeraineté abandonnée par un gouvernement traître. Le général Leclerc, chef de l'armée d'Extrême-Orient, est partout. On le voit surgir soudain, reconnaître la situation, donner des instructions, repartir. Ici, la reconnaissance se trouve devant un pont détruit. Et les prisonniers japonais sont employés par le génie à rétablir la circulation sur ce pont que peut-être d'autres japonais ont fait sauter.
Donc, à partir du 15 octobre, les soldats français du corps expéditionnaire débarquent à Saïgon.
À mon commandement !
Et Leclerc peut enfin se lancer dans sa mission de reconquête territoriale, non sans inquiéter l'amiral d'Argenlieu.
9h du matin, la voiture de l'amiral Thierry d'Argenlieu, précédée d'une jeep, arrive à Mito.
D'abord, qui est-il, ce d'Argenlieu ?
Quand d'Argenlieu arrive à Saïgon, il est haut-commissaire de France, donc il concentre en sa personne tous les pouvoirs civils et les pouvoirs militaires. Les vice-amirals d'escadre, c'est-à-dire la 4 étoiles, donc l'un des amiraux les plus élevés dans la hiérarchie de la marine en 1945. Mais c'est un amiral particulier, puisqu'en fait, l'amiral d'Argenlieu est également connu en religion sous le nom du père Louis de la Trinité, puisque au lendemain de la Première Guerre mondiale, il a démissionné de la marine pour entrer dans l'ordre des Carmes des Chaux. Il est devenu provincial de la province de France des Carmes des Chaux pendant l'entre-deux-guerres. C'est un Français libre de la première heure. Son surnom, pour symboliser les deux, c'est le Carme naval, donc qui fait bien la part des choses entre voilà, le marin d'un côté l'amiral et de l'autre le religieux.
L'amiral d'Argenlieu, haut-commissaire de France pour l'Indochine, vous parle.
Population indochinoise, vous, Alami, vous, Laotien, vous, Cambodgien, croyez à la parole du gouvernement de la République. La France veut vous aider. Elle veut mettre à votre service conseillers, techniciens, auxiliaires et non rétablir l'administration directe. Elle ne veut pas gouverner vos nations respectives. Elle veut pour vous émancipation et autonomie de peuples libres et mûrs. Elle vous l'offre au sein de l'Union française.
Et quelle est la mission confiée par de Gaulle à d'Argentlieu ?
La mission de d'Argentlieu est très claire, c'est de restaurer la souveraineté française en Indochine et d'y faire appliquer la politique qui a été décidée par le gouvernement. Cette politique, elle a été définie par une déclaration du 24 mars 1945. Et donc voilà, l'amiral d'Argentlieu est là pour faire appliquer cette politique et pour permettre la restauration de la souveraineté française en Indochine. L'amiral d'Argentlieu, lui, a déjà une expérience politique, il a déjà été au commissaire de France pendant la Seconde Guerre mondiale, il connaît l'administration coloniale, il s'est intéressé entre 1943 et 1945 à la guerre du Pacifique et à l'Indochine. Et donc voilà, ce qui fait la différence entre les deux hommes, c'est qu'on a d'un côté un pur militaire, brillant, mais un peu jeune sans doute aussi, de l'autre un officier qui lui a déjà exercé des fonctions politiques et qui est déjà en quelque sorte dans un ordre politique.
Alors, comment s'articule leur rivalité?
À partir du moment où les deux sont nommés en Indochine, en fait, le général Leclerc ne va jamais accepter le fait d'être subordonné à l'amiral d'Argentlieu. Et il va tenter, en fait, par tous les moyens, de subvertir l'organisation qui a été mise en place par le général de Gaulle.
Je comprends votre irritation, Leclerc. Mais je n'ai rien demandé, rien sollicité. De Gaulle m'a nommé. Et à de Gaulle, on ne refuse rien. Ni moi, ni vous.
Je pense que l'amiral d'Argentlieu arrive en Indochine, lui aussi, avec un souci d'être pragmatique.
Guillaume Piketty.
Mais il arrive lui aussi en français libre, et peut-être un peu plus en français libre que Leclerc. Parce qu'il est frappant de constater, chez beaucoup de français libres, y compris des esprits extrêmement éclairés, à quel point, pendant de nombreuses années après la guerre, ils ont conservé en mémoire que, sans l'Empire, la France libre aurait encore moins existé sur l'échiquier mondial pendant la guerre mondiale. Et donc cet empire est absolument essentiel. Et je pense que d'Argentlieu est pénétré de cette idée, peut-être encore plus que le général Leclerc qui a plus bougé.
De Gaulle a été clair. La grandeur de la France passe par la reconquête de son empire colonial. À vous sur le plan militaire. À moi sur le plan politique.
Difficile de dissocier les deux, monsieur le haut-commissaire.
Peut-être, général, mais c'est comme ça.
Et donc, peut-être que d'Argentlieu est un peu moins souple que Leclerc sur ces questions. Et puis, l'autre élément, c'est que l'amiral d'Argentlieu est le haut-commissaire en Indochine, qui, quelques mois après sa prise de fonction, il arrive au début de l'automne 1945, voit partir de Gaulle du gouvernement. Janvier 1946, et donc doit s'adapter au fait que le gouvernement n'est plus présidé par le général de Gaulle, mais par ce qui va à terme devenir la 4e République. Et donc il est dans une position institutionnelle un peu différente de celle de Leclerc. Enfin, il faut prendre en compte les tempéraments des deux hommes. Il est possible de considérer que l'amiral d'Argentlieu était encore plus raide que Leclerc. Et tout ça donne, à la fin, une forme d'affrontement entre eux. Sauf que le responsable politique à ce moment-là, c'est l'amiral, et donc le général Leclerc doit s'incliner.
Lettre de Leclerc au général Juin, 29 avril 1946, à Saïgon. Ayant eu connaissance des attaques très dures prononcées par l'amiral d'Argentlieu contre moi-même, je me permets de préciser en deux mots pourquoi je serais très heureux, maintenant que le principal est acquis en Indochine, de ne plus servir sous ses ordres. L'amiral est un autoritaire qui commande peu. Jusqu'au débarquement du Tonkin inclus, pas un ordre, pas une directive, sauf parfois après la bataille. Mais en même temps égocentrique considérable, qui n'admet pas d'autre autorité que la sienne. Le second reproche, peut-être le plus grave, est un manque de probité intellectuelle dont je ne fus pas le seul à souffrir. En conversation, on est toujours d'accord. Malheureusement, les actes ou les écrits consécutifs démentent ou déforment singulièrement les paroles.
L'amiral d'Argentlieu, c'est un homme qui est pétri de culture politique traditionnaliste,
Thomas Vaisset.
Il est religieux, il professe un catholicisme intransigeant, et donc il a une vision très hiérarchisée de la société. Mais ce qui, à certains égards, en fait, le rapproche de Leclerc, parce qu'en fait, les deux hommes ne sont pas si différents que ça quand on regarde voilà, la sociologie, quand on regarde leur milieu d'origine, même leur parcours, leur catholicisme. Voilà, il y a quand même pas mal de points communs entre les deux hommes, à la différence, notamment une différence de génération aussi. Mais voilà, c'est cet homme-là qui arrive en Indochine.
Donc, vous venez de le dire, ils ont des similitudes diverses, variées. Ce sont aussi deux gaullistes de la première heure, évidemment. Mais alors, qu'est-ce qui les oppose, au fond, Thomas Vaisset ?
Ce qui va les opposer en Indochine, c'est pas tant, en fait, la finalité de leur mission. Tous les deux sont d'accord pour que la France conserve en Indochine le maximum d'influence. En revanche, c'est plutôt les moyens d'y parvenir qui vont être différents entre les deux hommes, même s'il ne faut pas aussi oublier que les deux hommes vont évoluer aussi tout au long de leur mission. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a un d'Argentlieu qui est beaucoup plus libéral que Leclerc, et c'est seulement dans un second temps où l'amiral d'Argentlieu va se raidir, et que pour le coup, c'est plutôt Leclerc qui va passer pour quelqu'un de plus libéral que ce qu'était d'Argentlieu.
Ayez en tête qu'à l'automne 1945, le général Leclerc fait feu de tout bois pour récupérer l'Indochine.
C'est la fin de ma croisade. Dernière étape de la libération, je vais compléter le serment de Koufra. Au pas de charge, messieurs.
Alors que d'Argentlieu se tracasse face au mouvement indépendantiste.
Alors, l'amiral d'Argentlieu pressent, mais sans en tirer les conséquences, le phénomène de décolonisation. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs textes de sa part où on voit très nettement qu'il a compris que quelque chose se passe, qu'il y a un grand mouvement et qu'il faut mieux l'accompagner plutôt que le combattre. L'amiral d'Argentlieu, en fait, par exemple, à la fin de l'année 45, compte tenu de ses premiers entretiens sur place, en fait, interroge le général de Gaulle pour savoir s'il est autorisé à dépasser ses consignes, et notamment la question du terme de l'indépendance du Vietnam. Et d'Argentlieu, en fait, écrit un mémorandum au général de Gaulle pour demander s'il peut, entre guillemets, lâcher le terme indépendance. Et ce qui est très intéressant, c'est que Leclerc se dit écœuré par les solutions d'Argentlieu à ce moment-là. Et malheureusement, en tout cas, ce mémorandum n'a pas de réponse de la part de Gaulle, qui démissionne en plus dans la foulée. Et dans les courriers qu'il envoie pour justifier ce recours à l'indépendance, hein, il explique très clairement que voilà, il faut accompagner le mouvement parce qu'en fait, on va sans doute être forcé de finir par lâcher des choses sous la pression et qu'il faut mieux en fait accompagner et devancer les choses plutôt que les subir. Mais ça, voilà, c'est le d'Argentlieu fin 45 début 46 qui n'est plus celui de la suite.
Pendant ce temps-là, en France, ne parvenant pas à imposer sa vision d'un régime politique présidentiel,
De Gaulle s'en va. De Gaulle quitte la présidence du gouvernement.
De Gaulle démissionne.
Une voiture l'emmenait solitaire et pressée vers Marly-le-Roi, où dans un pavillon, le général De Gaulle se retirait momentanément. C'était fini. De Gaulle ira-t-il demain dans ce petit village de Colombey, habiter une maison qu'on répare, qui est la sienne? Cette maison qu'il n'a jamais encore habitée, mais dont il disait à Londres « ma maison de France ».
Et à partir du moment où De Gaulle quitte le pouvoir, l'amiral d'Argentlieu se raidit.
Général, l'Indochine est française. Point.
Et adopte une attitude conservatoire et conservatrice.
Négocier ? Avec qui ? Avec un communiste, hein ?
Il ne veut plus rien négocier avec le Viet Minh tant que De Gaulle n'est pas revenu au pouvoir. Alors que de son côté, lui, Leclerc évolue.
Le général Leclerc va être plus libéral, va avoir des solutions qui sont moins tranchantes et moins intransigeantes que celles d'Argentlieu.
Point.
À ce moment-là, les positions des deux hommes semblent effectivement s'inverser par rapport à ce qui existait jusqu'à présent.
C'est-à-dire qu'aux yeux de Leclerc, il faudrait peut-être imaginer une sorte de Commonwealth français, c'est-à-dire garder l'Indochine sous influence française, mais en lâchant un peu de l'Est sur une forme d'indépendance ou de souveraineté politique.
Oui, sauf qu'à aucun moment, Leclerc ne va en fait faire un texte programmatique qui permettrait vraiment de comprendre ce qu'il entend. C'est plutôt des compromis pragmatiques pour permettre d'avancer, tout en sachant qu'effectivement, lui, il avance aussi avec cette dimension surtout militaire. Et donc, il a pour accomplir sa mission en tant que militaire, permettre le retour de la France en Indochine. Et donc, si par exemple, il faut recevoir Ho Chi Minh à Paris, ça ne lui pose pas de problème. Ce qui, pour le coup, pose une question à d'Argentlieu, parce qu'on ne reçoit pas le roi du Cambodge à ce moment-là. Mais voilà, donc c'est plutôt sur la façon de faire qui va se libéraliser. Il ne faut pas voir Leclerc comme un décolonisateur en puissance. Il ne l'est pas, pour plein de raisons, et en fait, qui sont quasiment les mêmes que celles d'Argentlieu. C'est qu'en fait, ni l'un ni l'autre, en 45-46, ne sont prêts à assumer ce que ça voudrait dire. Personne, compte tenu du consensus impérial qui règne en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, personne chez les gaullistes n'est prêt à assumer ce rôle.
Redisons-le, Leclerc n'est pas un décolonisateur.
Il aspire surtout à trouver la meilleure solution pour que la France conserve son influence en Indochine.
Et voici maintenant l'émission de la France d'outre-mer. Paul Tétot vous parle.
Les colonies, ne l'oublions jamais, ce sont elles qui, en ralliant à la Croix-de-Lorraine, ont assuré à la France son expression politique, malgré l'éclipse de la défaite et de la capitulation.
Pour les Français libres que sont Leclerc et d'Argentlieu, renoncer à l'empire colonial leur semble impossible.
La question de lâcher ou pas l'empire est liée en fait à deux choses. Elle est liée, nous l'avons dit, à leur expérience de guerre.
Guillaume Piketty.
Pour ces Français libres, l'empire a été vital. Mais elle est liée aussi à quelque chose d'encore plus simple. C'est que ces hommes, ces femmes, ont été éduqués pour beaucoup dans l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire qu'ils ont été imbibés par l'idée d'une mission civilisatrice de la France. Je mets beaucoup de guillemets autour de mission civilisatrice de la France. Mais c'est ce qu'ils ont lu dans leur manuel scolaire, dans leur manuel au collège, dans leur manuel au lycée. Et donc il faut, après la Seconde Guerre mondiale, se débarrasser de ce qu'ils ont appris et de surcroît mettre de côté l'expérience qu'ils ont vécue pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est celle de l'importance de l'Empire. C'est difficile, c'est très difficile.
Télégramme de Leclerc à l'amiral Thierry d'Argentlieu, le 14 février 1946, à Saïgon. Les annamites acceptent sous le mot « indépendance » ce que nous proposons sous le mot « autonomie ».
Les Vietnamiens veulent l'indépendance. Donc Leclerc, grosso modo, il est prêt à prononcer le mot
« Doclap », indépendance.
Il n'y a pas d'obstacle, c'est un pragmatique.
Jean-Christophe Notin, biographe de Leclerc.
Mais dans l'esprit de Leclerc, quand il dit indépendance, lui pense en fait plutôt autonomie. Autonomie dans le cadre de l'Union française, qui est en fait la transition de l'Empire français, une espèce de Commonwealth à la française. Donc une Indochine évidemment plus libre que ce qu'elle était auparavant, mais qui reste dans le giron français. Donc Leclerc n'est pas du tout un indépendantiste.
Cette indépendance serait à accorder à terme au sein de l'Union française et concernerait non seulement Annam Tonkin, mais Cochinchine, Laos, Cambodge. J'estime que si le mot est prononcé, la plus grande partie du problème est résolue. Les annamites auront sauvé la face, sans que notre prestige et notre influence soient diminués.
Il y a un mythe du général Leclerc en Indochine, qu'on a vu apparaître dans les années 40-50, voulant montrer que Leclerc était un décolonisateur avant l'heure. Alors, c'est vraiment pas le cas. Il faut bien, une fois de plus, resituer le personnage. Voilà un homme qui, en 40, abandonne tout pour libérer la France. Le général de Gaulle, en 45, lui dit « La dernière étape de tout ça, c'est l'Indochine. » Il va en Indochine pour ramener l'Indochine à la France.
Point.
Amiral, vous partez pour Paris. Vous voyez le ministre des Colonies et le président du Conseil. Soyez clair, hein. D'ailleurs, je l'aurais écrit. C'est lui ou moi.
En 1946, la tension est telle à Saïgon, entre ces deux gaullistes originels, que la situation devient intenable.
Leclerc doit quitter l'Indochine, parce qu'en fait, d'Argentlieu a demandé son rappel au gouvernement, mais pour sauver les apparences, d'autant qu'en plus, à l'été 46, les généraux gaullistes n'ont pas forcément bonne presse, ce qui peut se comprendre, l'initiative va lui être laissée de demander son rappel, en fait, voilà, pour que les apparences soient sauves, et pour que son rappel n'apparaisse pas comme une sanction. Et donc c'est Leclerc qui va demander son rappel, même si en privé, hein, les deux hommes échangent des courriers peu amènes sur leurs différends, et notamment voilà, sur les questions qu'on conduit à ce rappel.
Lettre de Leclerc à l'amiral Thierry d'Argentlieu, le 17 juillet 1946. Amiral, au moment de quitter l'Indochine, je crois nécessaire de vous redire les raisons qui m'ont poussé à ce départ. J'ai demandé ma relève dès que j'ai senti que la confiance entre nous n'était pas entière. D'autre part, nos idées sur les méthodes et procédés de commandement n'étant pas identiques, il était préférable que je m'efface.
Ici, l'un de nous était de trop.
Eh ben voilà, tout est dit. Vous avez tout dit. Vous n'aurez plus à y revenir.
Alors, il veut le sortir pour au moins deux raisons. C'est qu'en fait, il a fait preuve d'une patience assez incroyable quand on connaît d'Argentlieu à l'égard de son subordonné qui conteste en permanence son autorité. Et au printemps 46, en fait, trop c'est trop. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui s'est joué là. Il y a un deuxième élément aussi, c'est que, en fait, d'un certain côté, la mission de Leclerc est remplie. La France est revenue en Indochine, elle a remis le pied au sud, elle a remis les pieds au nord, et donc c'est le bon moment, en quelque sorte, pour faire la transition avec un successeur.
Je viendrai vous saluer à l'aéroport. Inutile.
En juillet 1946, quand Leclerc quitte l'Extrême-Orient, il envisage une forme d'indépendance pour l'Indochine. Mais allait-il pour autant dans le sens de Ho Chi Minh ?
Alors, la relation entre les deux hommes, elle est compliquée à définir, puisque à la fois, il y a un profond respect entre les deux hommes. Il y a des photos qui le montrent, il y a des textes qui en témoignent.
Monsieur le Président, je suis très heureux de vous saluer. Je respecte votre action et le courage de vos troupes. Je comprends votre combat, même si je le déplore.
Mais en même temps, en privé, dans les courriers que Leclerc écrit, il qualifie le Viet Minh de parti totalitaire. Et à la veille de quitter l'Indochine, il écrit une lettre à Maurice Schumann, où il écrit, je le cite, hein, « Qui est Ho Chi Minh ? Il importe avant tout de ne pas oublier que c'est un grand ennemi de la France et que le but poursuivi par lui-même et son parti, il y a 6 mois, était notre mise à la porte pure et simple. L'échéance est reportée, mais l'idée demeure. J'estime dans ces conditions qu'il serait très dangereux que les représentants français à ces négociations se laissent prendre par les sympathies et les artifices de langage, démocratie, résistance, France nouvelle, que Ho Chi Minh et son équipe savent utiliser et manier à la perfection. » Et il conclut, le cadre fixé par la France est parfaitement net et bien défini. Fédération indochinoise, dans le cadre de l'Union française, il est nécessaire que nos représentants s'y maintiennent.
Attention pour les couleurs. Envoyez.
À la fin du printemps 1946, Leclerc a accompli sa mission militaire en Indochine, permettre à la France de remettre les pieds dans sa colonie. Et en mars, Leclerc a même favorisé la signature d'un accord entre le gouvernement français et Ho Chi Minh dans l'espoir de sauver la paix.
La France est la championne de la liberté et de la démocratie. Par la convention du 6 mars, 1946. Elle a affirmé son respect pour la souveraineté et pour l'individualité du Vietnam.
Mais 6 mois après le départ de Leclerc, la péninsule indochinoise s'embrase et la 4e République s'embourbe dans sa première guerre coloniale. De retour en métropole, que devient ensuite le général Leclerc ?
Alors, le général Leclerc en 46 est général d'armée, et donc il va se retrouver inspecteur des forces armées en Afrique du Nord.
Jean-Christophe Notin.
Là non plus, c'est pas forcément le poste dont il rêvait, mais c'est le seul qui est à peu près libre. Et le pauvre général Leclerc, il n'y a pas grand-chose à faire. Il fait la tournée des armées, et surtout, il essaie de voir un peu la situation. Et il voit très bien les ferments en Afrique du Nord de ce qu'il a vu en Indochine, donc l'éveil de nationalisme.
Mais Leclerc ne connaîtra rien des combats pour l'indépendance algérienne, puisque son destin s'achève le 28 novembre 1947.
Alors, le 28 novembre 1947, en fait, Leclerc est en tournée dans les confins algéro-marocains, comme on dit. Il doit aller à Colombéchar, qui est vraiment au tout bout de la frontière. Et donc, il se déplace avec son état-major. C'est une inspection tout à fait de routine. Alors donc il décolle d'Oran, il est attendu vers midi et quart à Colombéchar. Si ce n'est que l'heure passe et que personne ne voit l'avion se profiler à l'horizon, l'avion s'est crashé, tout le monde est mort à bord. Et évidemment tout de suite vont partir des théories plus ou moins complotistes pour essayer de comprendre comment a pu mourir ce qui est à l'époque vraiment la plus grande figure française. Comme toujours, quand des personnalités de ce calibre meurent, on n'imagine pas que c'est la sinistre fatalité d'un accident. Donc les théories les plus diverses vont être échafaudées.
Il avait 45 ans, rappelons-le, en plus, un très jeune général.
Et tout jeune. C'est l'incarnation de l'espoir, de la liberté, de la libération de la France. Tout de plus, certains nombres lui prédisaient un très grand avenir. Même, on a dit, le général de Gaulle comptait beaucoup sur lui, s'il lui arrivait un problème, etc. Donc, c'était vraiment l'incarnation d'un tas de choses. Le voir disparaître comme ça, d'un coup, c'était incompréhensible pour beaucoup.
Après une longue enquête, fouillée et minutieuse, Jean-Christophe Notin a pu démontrer
qu'il s'agissait bien d'un crash aérien. Un banal accident d'avion. Même si à l'époque, les rumeurs les plus folles ont couru sur la mort de Leclerc. Car il y avait à bord un 13e passager. Un passager inconnu.
Ça va devenir vite une rumeur qui va traverser rapidement la Méditerranée. Il y avait 13 personnes à bord, donc évidemment, des thèses d'attentat ou de sabotage vont vite voir le jour. Et donc là, on a... C'est vraiment... Alors à l'époque, on n'emploie encore pas le mot, mais c'est le royaume du complotisme. Donc on a différentes thèses. Il y en a qui vont dire...
Première théorie complotiste.
Ah ben oui, en fait, le général Leclerc, il faisait de l'ombre au général de Gaulle. Donc ce sont les gaullistes purs et durs qui ont voulu éliminer ce royal. Bon, enfin, c'est évidemment grotesque.
Deuxième théorie, Staline lui-même aurait fait assassiner Leclerc.
On est en 47, il y a toutes les bisbilles politiques de l'époque, hein, le communiste qui sort du gouvernement, il y a de grosses grèves. Donc le KGB, évidemment, veut éliminer celui qui allait mater la révolution en France. Bon, c'est tout à fait grotesque, hein, il n'y avait pas de révolution en préparation. Et le KGB, s'il voulait éliminer Leclerc, il pouvait le faire à Paris, c'était beaucoup plus simple.
Et enfin, troisième théorie.
La troisième thèse, c'était le MI6. Parce que Leclerc, alors il y a toute l'histoire du Fezzan, territoire donc il a libéré. Il y a un explorateur français, Conrad Killian, qui établit qu'il y a du pétrole dans le Fezzan. Et évidemment, les Anglais veulent récupérer le Fezzan pour créer ce qui va devenir la Libye. Et alors, dans cette thèse-là, Leclerc se serait allié avec Conrad Killian pour convaincre l'État français de garder le Fezzan. En fait, pas du tout. Leclerc a bien reçu Conrad Killian. Mais de la fin de l'entretien, il a dit à son aide de camp, je veux plus voir cet Uluberlu, donc ça non plus, c'est complètement grotesque. Toutes ces théories-là achoppent sur la zone de crash. S'il y a complot, donc c'est ou un attentat ou un sabotage, la zone de crash permet d'éliminer ces deux thèses. Ce n'est pas possible. Une explosion, un attentat, il y aurait des débris partout, sur une zone très, très dispersée, c'est pas du tout le cas. La zone de crash fait grosso modo la taille du B-25. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si l'avion s'était, j'allais dire, posé, écrasé, mais vraiment à plat. Et en ce qui concerne le sabotage, ça a été pour le coup une des choses qui a été très fouillée au moment de l'enquête. Donc les moteurs ont été vraiment... Ce qu'on a retrouvé, les moteurs, ils ont été très, très étudiés. Il n'y avait absolument aucun problème avec les moteurs. Donc toutes ces théories-là ne tiennent pas la route.
Malgré les secours arrivés presque aussitôt, aucun des passagers n'a survécu. L'un des premiers corps identifiés puis celui du général Leclerc.
Ainsi, le général Leclerc a trouvé la mort sur cette terre d'Afrique où il fut toujours vainqueur.
Alors, vous avez beaucoup travaillé sur ce dossier, on l'entend à vos paroles. Vous avez même retrouvé la tombe du 13e homme. Alors, c'était qui ce 13e homme, Jean-Christophe Notin ?
Alors oui, ça j'avoue que, étant convaincu de l'existence de ce 13e homme, je tenais absolument à savoir ce qu'on en avait fait. Parce qu'il y a eu vraiment des choses fabuleuses dans la presse de l'époque. Les 13 corps quittent Colombéchard, vont vers Alger. Donc toute la presse évoque un convoi de 13 cercueils dans ce transfert. Et une fois qu'elles ont traversé la Méditerranée, ils sont plus que 12. Et j'ai même trouvé un article, ça c'était fabuleux, évoquant la traversée. Commence avec 13 cercueils montent à bord. Et arrivé à Marseille, 12 cercueils débarquent. Mais l'auteur de l'article ne s'est pas rendu compte qu'il en avait perdu un au milieu. En fait, le cercueil a été détourné vers Alger, dans une morgue, donc à part, parce que les autorités étaient évidemment imminemment gênées. Ramener 13 cadavres, c'est accepter, dire, ben oui, il y avait vraiment 13 personnes à bord. Ça, c'était vraiment ce dont ils ne voulaient pas parler. Donc, en fait, le cadavre a été enterré au cimetière Saint-Eugène d'Alger. C'est la tombe numéro 500. Et j'ai d'ailleurs eu à l'époque quelqu'un qui a eu la gentillesse d'aller le vérifier. Donc c'est établi, le corps y est toujours. Le grand mystère étant qui cela pouvait être. Sur cette zone de crash ont été retrouvés un grand nombre d'éléments. Sur ce 13e cadavre ont été retrouvés des éléments d'uniforme d'officiers de l'armée de l'air. J'ai vraiment poussé l'enquête dans tous les sens et essayé de retrouver tous les noms. Il y avait 2-3 noms qui sont apparus. À l'époque, j'ai envoyé des milliers de courriers. Parce qu'il n'y avait pas encore... L'Internet n'était pas à ce niveau-là. Donc vraiment, des courriers manuscrits, interroger les familles. Vous portez tel nom. Est-ce qu'à l'époque, par hasard, vous n'avez pas perdu quelqu'un ? Donc j'ai pu éteindre un certain nombre de pistes pour arriver à la conclusion que c'était donc très certainement un officier de l'armée de l'air, un jeune, qui a fait ce qu'on appelle à l'époque du taxi-stop. Ça se faisait, Leclerc l'avait déjà fait. Donc quelqu'un qui montait à bord pour faire un bout de chemin et qui est mort ce jour-là. Et devant l'embarras des autorités françaises, On a mis une chape de plomb sur sa mort. Et sans doute, sa famille a dû apprendre sa mort quelques semaines plus tard, dans un lieu indécis, en sachant qu'à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de crash. C'était assez fréquent. Donc, perdre quelqu'un, hélas, dans ces circonstances-là, c'était pas totalement fantaisiste.
Très loin du désert algérien, l'épouse du général Leclerc, Thérèse de Hauteclocque, se trouve à Tailly, dans la Somme, ce 28 novembre 1947.
Il n'y avait pas un survivant, on l'a tout de suite su, et moi je ne l'ai pas su avant, il y en a qui l'ont su certainement avant moi, puisqu'on avait, je crois, prévenu à la maison. Et moi je l'ai su, je ne sais pas très bien quelle heure il était, et je suis rentrée alors à la maison, c'est M. Pleven qui m'a reconduite, et ma première idée a été de me dire, mon Dieu, pourvu que sa mère ne l'apprenne pas trop brusquement, alors j'ai téléphoné, sans réaliser, voyez-vous, parce que je n'avais pas regardé même l'heure, sans réaliser que mes trois derniers enfants étaient rentrés de leur classe respective, donc qu'ils étaient là. Et alors quand ils m'ont entendu parler au téléphone, parce que forcément de leur chambre ils entendaient, ils m'ont dit « c'est pas vrai maman ». Et c'était vrai.
Alors, quelles ont été les réactions en France à l'annonce de la mort prématurée de Leclerc ?
Ah, c'est vraiment le drame national. Pour avoir une anecdote personnelle, mon père, qui était né en 36, me racontait que dans sa classe, ils avaient pleuré. On a du mal à imaginer ce que pouvait être un homme comme Leclerc à cette époque-là. Il avait incarné la libération, il avait incarné l'espoir, incarné la liberté. Il disparaît si jeune. C'est un drame absolu et qui est transcourant. Une fois de plus, quand les cercueils arrivent à Marseille, il y a une grève, donc il ne peut pas prendre le train. Donc il y a un long cortège qui va remonter vers Paris, et bien, les piquets de grève tenus par la CGT, les syndicats lui rendent tous les honneurs. Je pense qu'on ne peut pas le comprendre. Ça dépasse l'entendement actuel, les obsèques nationales, mais des centaines de milliers de personnes qui sont au cortège et en pleurs, jusqu'au général de Gaulle. Alors, il n'est pas présent le jour des obsèques, mais c'est l'une des rares fois où son aide de camp l'a vu pleurer.
Lettre du général de Gaulle à Thérèse Leclerc. Le 29 novembre 1947. Chère madame, j'aimais votre mari, qui ne fut pas seulement le compagnon des pires et des plus grands jours, mais aussi l'ami sûr dont jamais aucun sentiment, aucun acte, aucun geste, aucun mot ne furent marqués même d'une ombre de médiocrité. Sous l'écorce, nous n'avons jamais cessé d'être liés profondément l'un à l'autre.
En conclusion de ce septième épisode, ayez en tête que l'expédition indochinoise de Leclerc s'est soldée par un bilan plus que mitigé. D'abord, il a tenté de remplir la mission impossible que lui a assignée de Gaulle, restaurer la souveraineté de la France en Extrême-Orient. Une mission qui allait contre la marche de l'histoire, car aucun des deux n'a été capable de concevoir que s'ouvrait alors la voie de la décolonisation.
Nous voulons notre indépendance, mais aussi la collaboration franco-vietnamienne.
Ensuite, Leclerc repart de Saïgon avec la sensation d'avoir perdu la partie.
C'est lui ou moi.
Face à un amiral d'Argentlieu, dont le conservatisme va précipiter la République française vers la guerre d'Indochine. Enfin, l'épopée Leclerc s'achève tragiquement dans le désert algérien. Cette mort brutale et prématurée du héros de la libération a secoué la France jusqu'au plus profond de son âme.
D'ici quelques instants, le canon automoteur Alsace, sur lequel repose depuis hier le corps du général Leclerc de Hauteclocque, quittera l'Arc de Triomphe pour Notre-Dame, où il séjournera jusqu'à demain.
Que nous enseigne l'ampleur émotionnelle des obsèques nationales du jeune général Leclerc, c'est l'horizon du prochain épisode. La cavale du général Leclerc, un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Anne Kessler et Laurence Stocker, sociétaire de la Comédie Française. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Léonie Ferré. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer et Cédric Diallo. Prochain épisode, La crypte des Invalides.
La cavale du général Leclerc est un podcast original de France Inter.